L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve en direct pour une émission normale aujourd'hui, après avoir fait une émission un petit peu spéciale il y a 15 jours, à l'occasion des Assises Nationales de la Randonnée et du Festival des Randonnées, et donc c'est le numéro 19 de l'Oz Actuali, avec autour de la table Eric, bonjour.
Bonjour les gens.
Nous avons viré Caroline cette semaine, elle n'était pas là, donc c'est Ludo qui la remplace.
Elle n'était pas compétente, on dit. Salut.
Elle était un petit peu intéressée aussi par le sujet, donc voilà, elle s'est mise un peu en retrait, par déontologie peut-être. Voilà, et donc notre invité, bonjour.
Bonjour.
Donc Séverine de la MAP du Gévaudan.
C'est cela.
C'est son nom, de la MAP du Gévaudan.
Voilà.
De la baronnie de la MAP du Gévaudan.
Bien, alors au programme aujourd'hui, il sera évidemment question d'agriculture, de produits, etc. Et puis on parlera, Eric, de quoi dans ta chronique?
On parlera un peu de sport.
Ah, un peu de sport pour Eric. Ludo?
Mais moi je vais parler de Roquefort qui va se balader autour du monde.
Très bien, évidemment, on retrouvera hashtag avec les mots dièses de la semaine et puis la revue de presse avec différentes choses. Moi, je parlerai élection législative pour toi.
La découverte des Amériques.
Voilà, et Ludo, ce sera une chronique surprise, enfin une petite revue de presse surprise. On vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir tout au long de l'émission avec le hashtag Loz Actuali sur les différents réseaux sociaux. Allez, première partie de cette émission avec donc la découverte de la MAP du Gévaudan et surtout de Séverine tout d'abord. Qui êtes-vous?
Donc je m'appelle Séverine Van de Velde, je suis maraîchère installée sur la commune de Balsiège depuis 4 ans. Donc je commercialise mes légumes en vente directe et sous forme de panier, notamment à la MAP du Gévaudan, qui elle existe depuis une dizaine d'années.
Voilà, MAP ça veut dire?
Donc AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne de proximité.
Il y a deux P.
Il y a deux P. Le deuxième P a été rajouté vraiment pour conforter l'idée de la proximité et donc pour nous favoriser le manger local.
Pour vous, l'idée de vous installer, c'était lié avec cette perspective de vente au travers d'une AMAP et derrière donc de ce lien finalement avec vos clients, enfin, d'une certaine façon.
Donc, on n'appelle pas les AMAPiens des clients, justement, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus que ça. Alors moi, il se trouve que j'ai fait une reconversion professionnelle et que j'étais adhérente à la MAP en tant que consommatrice avant de m'installer donc maraîchère côté producteur. Donc ça a toujours été important pour moi d'avoir cette relation avec les producteurs, les paysans, et donc de la même façon, aujourd'hui, c'est important de partager des valeurs, et puis pour nous, c'est un moyen de valoriser notre production. C'est très important d'avoir les ressentis et de pouvoir partager avec les AMAPiens.
Voilà cette notion de consommateur. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce que c'est d'être plus qu'un consommateur?
Être plus qu'un consommateur, ça passe par plusieurs choses. Déjà par l'engagement. Au sein de l'association, les adhérents AMAPiens passent des contrats avec les différents producteurs d'une durée de 3 mois ou de 6 mois en ce qui concerne le maraîchage, les légumes. Donc pour les producteurs, ça permet de savoir, de pouvoir quantifier en fait nos productions et d'être rassurés de savoir que nos produits seront bien vendus. Et puis ça passe également par une compréhension de leur part, des coups de main également. À l'association, on a mis en place le SOS Amapien. Donc quand un producteur a besoin d'un coup de main ponctuel pour des tâches difficiles, il peut faire appel à l'ensemble des adhérents.
Voilà, qui viennent aider sur des week-ends ou en semaine pour réparer des clôtures, pour planter des patates pour les restaurants du cœur. On sait que chaque année, la MAP donne gratuitement, bien sûr, des patates à cette association caritative. Il y a beaucoup de stands, mais c'est pas des stands, de producteurs à la MAP à l'heure d'aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, il y a une dizaine de producteurs qui représentent environ toutes les productions de Lozère, donc producteurs de viande, fromage, miel, légumes, pain. Voilà, on a des pâtes aussi.
Voilà, il y en a du pain de la MAP aujourd'hui, du très bon pain de la MAP.
Pas du tout.
Alors, je ne connais pas cette émission, donc je m'emballe un peu, mais en fait, c'est les questions qui vont intervenir après, il me semble.
Non, mais
c'est fait,
on va essayer d'abord de connaître un peu l'invité et donc de voir après, on parlera peut-être plus en détail justement du fonctionnement de la MAP, mais peut-être justement, qu'est-ce qui, dans ce projet de reconversion, pourquoi être allé vers... Dans cette logique, pourquoi devenir maraîcher, maraîchère en l'occurrence ? Qu'est-ce qui vous a motivé et comment ça se fait en lien avec la MAP ?
J'ai à un moment donné eu envie de faire une reconversion professionnelle et durant donc cette période de réflexion, le fait de pouvoir discuter et rencontrer donc les paysans, les producteurs de la MAP, voilà, m'ont permis de réfléchir et de me dire que j'avais besoin de faire quelque chose de vrai, d'assez primaire en fait. Donc voilà comment je suis venue au maraîchage, avec ce retour et cette envie d'avoir un lien et de travailler la terre. Et puis par rapport après à la commercialisation, moi je suis installée sur une toute petite surface. Hein. C'est vraiment le but aussi, c'est de pouvoir vraiment travailler des produits de qualité. Ça demande beaucoup de temps et donc aussi en respectant les valeurs de l'agriculture paysanne. Et c'est tout ça que je retrouvais au sein de la MAP.
Alors justement, comment vous décririez cette agriculture paysanne ? Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Pour nous, l'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui est déjà respectueuse de l'environnement, y compris à la MAP, on n'exige pas le label agriculture biologique. Je suis en agriculture biologique, mais l'important, c'est de respecter l'environnement. La place de l'homme aussi a une grande importance, d'où... l'envie de vendre ses produits au plus près et d'avoir d'autres relations avec le consommateur. Et puis, il faut que la production doit être ancrée sur le territoire. Donc c'est vrai qu'en maraîchage particulièrement, on a des saisons très courtes. On essaye de produire le mieux possible et le plus possible en fonction des contraintes de la région.
Parce que justement, oui, c'est pas une option de facilité de prendre le maraîchage. Pourquoi vraiment partir là-dedans plus que de l'élevage ou
Parce que les plantes, le cycle des végétaux, le sol, tout ça m'intéressait. C'était vraiment voir pousser des plantes, les aider, qui m'intéressait.
Et est-ce que c'est facile de s'installer justement ?
Non, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai repris les terres d'un maraîcher qui a arrêté, qui s'est consacré à du pain. Il est paysan boulanger maintenant, donc j'ai pu trouver des terres très facilement et j'ai repris aussi une partie de son matériel, ses circuits de vente. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance, mais il y a beaucoup de porteurs de projets, de gens qui veulent s'installer aujourd'hui, qui sont à la recherche de terres et qui n'y arrivent pas.
Ah, c'est un réel problème sur le département, le foncier.
Alors, qu'est-ce que vous produisez dans ce maraîchage? Qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce que vous nous proposez comme produit tout au long des saisons?
Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir justement des légumes toute l'année, ou en tout cas la saison la plus longue possible. Mais c'est assez difficile parce qu'on a des gelées assez tardives et précoces à l'automne. Donc l'idée est de cultiver le plus d'espèces possible, donc plus d'une trentaine d'espèces, et d'avoir donc des légumes diversifiés. Donc ça passe bien sûr par les tomates, les courgettes en pleine saison, qui sont un petit peu les légumes stars, les haricots, les pois, mais aussi des légumes moins connus comme les panais, les topinambours, certains choux. Donc l'idée, c'est d'avoir une gamme large. Donc en ce moment, par exemple, c'est plutôt salade, radis, pois, épinards.
Et alors, évidemment, vous arrivez à fournir pour tous les amapiens qui vont venir chercher leur panier. Comment ça se passe? Parce que, enfin, est-ce que vous allez avoir suffisamment de choux pour tous les inscrits? Comment ça fonctionne?
Alors, tout d'abord, par rapport à la saison, malheureusement, on ne peut fournir des paniers que de juin à décembre, puisque avant, on n'a pas assez de diversité pour proposer un panier assez varié. Et puis après, c'est sûr que ça demande beaucoup d'organisation pour la composition des paniers. Mais les amapiens sont aussi des personnes très compréhensives. On peut aussi parfois... on n'est pas obligé de faire des paniers identiques. Donc voilà, on essaie de jouer un petit peu sur tout ça pour pouvoir leur proposer de juin à décembre des paniers complets. Mais si ça arrive que les paniers ne soient pas complets, on peut aussi leur proposer par exemple des paniers beaucoup plus fournis en été.
On a parlé de légumes, mais est-ce qu'il y a des fruits aussi ?
Non, il n'y a pas de fruits à la MAP et donc moi-même et l'autre maraîchère, parce qu'on est deux maraîchères, hein, donc pour fournir les paniers, on ne propose pas de fruits. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manque sur le territoire de la Lozère, et c'est pas facile de trouver des producteurs qui font des fruits aussi en respectant l'environnement.
D'accord. Alors peut-être justement dans les légumes, quel est votre préféré, celui que vous aimez aller produire, que vous allez aimer chouchouter tout au long de la saison, et puis celui qui est vraiment embêtant mais que vous êtes un peu obligé d'avoir dans votre gamme?
C'est difficile à dire, ça dépend beaucoup des années aussi et de la météo. Bien sûr, les tomates ont une grande importance parce qu'on sait que ce sont des légumes qui font plaisir aux amapiens notamment.
Et les tomates sont excellentes de Séverine. Elles sont goûtues, on les retrouve pas, on retrouve pas ce goût dans les grandes surfaces lozériennes. Moi, c'est au passage.
Après, personnellement, il y a quelques légumes où j'ai un petit peu plus de mal, comme l'artichaut, le fenouil. Voilà. On bichonne, je crois, plus les légumes qu'on aime au jardin.
Et donc,
ça, ce petit côté, ce petit goût d'amertume dans l'artichaut, en fait.
Peut-être.
C'est ça, ouais.
Je partage pour ce qui est de l'artichaut. Bon, je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie tout à l'heure pour développer un petit peu plus justement l'activité de la MAP, comment elle fonctionne. On aura l'occasion de découvrir un petit peu plus ça. Mais voilà, on vous connaît un petit peu mieux maintenant. Et donc, tout de suite, maintenant, ça va être la chronique d'Éric. Éric, c'est à toi.
Oui, alors moi, il faut savoir que j'ai commencé à préparer ma chronique la semaine dernière, après avoir trouvé le sujet, ce que je pensais vraiment être un bon sujet. Donc tout était prêt, j'étais sûr de mon choix, donc un de ces choix qu'on appelle une valeur sûre. Donc j'avais décidé de parler des perdants magnifiques. Bon, pas comme la France à l'Eurovision, qui se rapproche plus des perdants catastrophiques. Non, les perdants magnifiques comme l'équipe de rugby de Clermont-Ferrand. Alors, l'ASM. qui était programmé pour perdre une nouvelle finale du championnat de France dimanche soir, malgré un statut de favori. Bon, c'était d'une logique, de tout ce qu'il y a de plus logique. Clermont perd en finale. Bon. Alors j'avais prévu de remonter à l'origine du mal en parlant de Vercingétorix et de sa courageuse défaite à Alésia, à la fin de laquelle il avait jeté ses armes aux pieds de César. Et que cette défaite était restée dans les gènes de tous les Clermontois, et que seulement dans la défaite, ils pouvaient s'imaginer maintenant. Mais voilà, patatras comme on dit, l'ASM a vaincu le cygne indien, ou césarien, et réussi à remporter une victoire qu'elle aurait pourtant bien pu encore perdre jusqu'au bout. Et ce fut alors une de ces victoires qui vous soulève tout un peuple jaune, car elle était attendue depuis plusieurs années et tellement d'échecs concédés. Bon, alors voilà, je suis assez content de leur victoire, parce que bon, Luc va me devoir l'apéro, mais ils ont perdu la très belle chronique que j'avais préparée pour eux en fait. Bon, après, j'ai quand même eu un peu de chance ce week-end. En foot, la vieille dame turinoise a perdu une nouvelle finale de Ligue des Champions contre le grand Real Madrid. Donc je vais pouvoir continuer sur mon sujet. Donc, ainsi en sport, il est de ces joueurs ou de ces équipes qui paraissent toujours tout dominer, mais qui perdent à la fin. Donc, toutes ces défaites avec panache, sans vouloir renier ses valeurs. En cyclisme, pendant très longtemps, on a comparé tous ces perdants à Poulidor, donc l'éternel second du Tour de France, qui était toujours mal accompagné. Bon, il faut aussi dire qu'il ne partageait pas toujours ses primes de victoire avec ses coéquipiers, donc forcément, il est peut-être un peu moins d'aide. Il y a aussi une malédiction dans le tennis masculin. Français qui n'arrive pas à remporter un titre du Grand Chelem depuis Yannick Noah dans les années 80. 83, je crois, ou 85, enfin, quelque chose comme ça. Ouais.
Là, c'est quand même un record qu'il ne soit pas au huitième de finale. Oui. Il n'y en a aucun au huitième de finale.
Même si son demi, il ne gagne jamais non plus.
Oui,
donc,
non, mais bon.
Cette année, on a des très bonnes féminines.
Oui, c'est ça.
En féminine, elle gagne. C'est pour ça que j'ai précisé masculin. Après, on considère souvent les grands vainqueurs comme des machines, donc ils ne sont pas comme nous. Ils ont un truc en plus. Parfois, cela peut même être considéré comme du génie, une force exceptionnelle, un mental à toute épreuve, donc des produits ultra performants. Enfin, ils nous font rêver. Mais les perdants, on s'en proche d'eux. Ils nous ressemblent. En rugby, on a inventé des termes aussi pour justifier tout ça, comme le French Flair. Ça évoque ces grandes envolées, cette forme d'improvisation dans le jeu quand tout semble écrit d'avance, ces inspirations qui permettent de faire lever les spectateurs et hurler les commentateurs. Mais à la fin, les Français y perdent toujours. Ils sont souvent eux qu'on a quand même envie de regarder car ils nous promettent l'imprévu, le spectacle. En début d'année, j'avais parlé du Vendée Globe, avec cette lutte en voilier autour du monde, qui aura vu la deuxième place donc, d'Alex Thompson, alors, qui semblait être le plus rapide sur l'eau, le plus audacieux. Et même s'il était anglais, on le suivait quand même, parce qu'il proposait quelque chose, alors que Armel Lecléache, qui a gagné, lui, c'est pas qu'il manquait de saveur, mais c'est vrai qu'il montrait pas beaucoup d'émotion, on semblait que c'était tout écrit d'avance. Et nous, on aime bien ces barreaux d'honneur qui font passer les défaites, justement pour des promesses de lendemain qui pourraient enfin sourire. Personnellement, moi, j'ai fait du sport pendant plusieurs années, et je peux vous affirmer que même si certains disent qu'il n'y a pas de jolie défaite, et il faut dire que j'ai pas toujours connu la saveur d'être toujours vainqueur, mais je sais qu'on peut avoir le regard fier tout en étant dernier, comme des défaites où on a tout donné, on a mis toute notre force de nous dépasser. Il n'y a pas qu'en sport aussi qu'on peut utiliser cette expression. Ainsi, dans la vie de tous les jours, on peut également en trouver, comme pour les militants écologistes, qui pour le moment, ils perdent la bataille un peu dans le rapport de domination, mais ils sont magnifiques car ils essaient de comprendre, de se battre et de trouver un petit peu de bonheur et de faire avancer les choses. Moi, j'aime ces héros du quotidien. Et après, donc, je vais terminer en vous parlant de Léonard Cohen, qui est un de ces poètes qui aime verser dans la répétition par petites gorgées ou par grandes goulées, comme on récite des prières. Le Canadien était un peu comme son vieux compère de machine à sous, Bob Dylan. Il aurait peut-être mérité le prix Nobel de littérature. Et je vous propose ainsi, en plus de toutes ces chansons, un de ses livres, donc Les Perdants Magnifiques. Et il vous laisse donc avec cette citation. « Comment puis-je commencer quelque chose de nouveau avec tout cet hier en moi ?» Et enfin cette autre. « Mais il y a une fissure dans tout. Comme ça, la lumière peut entrer. »
Magnifique.
C'est pour ça que de Coubertin, français, il a dit l'essentiel est de participer, parce qu'il savait qu'on ne gagnait pas. Mais il avait raison.
Bien, c'est le moment de la première coupure musicale dans cette émission. Et donc, c'est le choix de l'invité, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi, Séverine ?
Une chanson du nouvel album de Camille.
Voilà, Fontaine de lait, c'est sur 48 FM.
Où va l'eau, et la sève, et les larmes
deuxième partie de l'émission. Vous savez, c'est le moment compliqué puisque tout le monde mange. Et donc, il faut poser des questions à notre invité. Donc, toujours Séverine de la MAP du Gévaudan. Alors, justement, donc, la MAP, on a expliqué, ça fait une dizaine d'années, Association pour le maintien d'une agriculture de paysanne et de proximité. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Comment on peut devenir un MAPien? Alors, il y en a autour de la table, en plus, mais,
Oui, on aura, j'espère, leur témoignage un petit peu plus tard quand ils auront fini d'avaler leur assiette.
Alors
la MAP, donc c'est une association, donc il y a une adhésion à régler pour faire partie de l'association. Une fois adhérent, vous pouvez accéder à des contrats trimestriels ou semestriels pour le maraîchage. Et ces contrats vous permettent de commander les produits à chaque producteur.
Donc, ces contrats, on les passe avant la saison ou au moment où on commence à acheter? Parce que j'imagine que vous, par exemple, vous produisez bien avant que, enfin, vous commencez à semer, à planter, etc., bien avant que les produits arrivent dans le panier.
Alors, pour le maraîchage, les personnes remplissent leur contrat en général en mars-avril pour débuter au mois de juin. Donc nous, effectivement, on a déjà commencé à semer, planter certains légumes, mais ça nous permet d'avoir une vision donc sur le reste de l'année. Et pour les autres productions, ce sont des contrats trimestriels, donc que les gens remplissent le mois qui précède le trimestre à venir.
D'accord. Voilà, il y a un grand marché par mois où il y a tous les producteurs, où on peut sur Internet choisir les produits qu'on veut récupérer pendant ce marché mensuel, en fait. Et après, arrive l'été, c'est chaque semaine où on a le maraîcher. Et en plus, vient de se greffer le boulanger ou la boulangère. Il y a une personne qui fait des pâtes aussi excellentes lui-même, qui viennent souvent chaque semaine, ou des fois pas. Et après, les marchés mensuels restent.
Faut corriger la quantité de bêtises. Ouais. Hein,
si, moi, je l'ai vu des fois dans les...
Par là.
J'ai croisé en ville.
Non, c'est ça. Tous les producteurs sont présents une fois par mois. Et puis, effectivement, toutes les semaines de juin à décembre, vous pouvez donc récupérer des paniers de légumes, du pain et tous les 15 jours, des fromages et lait de vache. Voilà.
Alors, combien il y a de producteurs aujourd'hui qui participent à la MAP?
Il y a une dizaine de producteurs et donc vous avez de la viande sous forme de caissette, du miel, du pain, des fromages de vache et de chèvre, donc lait et yaourt également. Vous avez des produits à base de châtaigne, du safran, des pâtes, donc avec un artisan des Cévennes, les fameux paniers de légumes, des volailles. Voilà, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un petit peu toutes les productions qui existent en Lozère.
Et alors, après, donc, si on veut adhérer et être nouveau participant à la MAP, comment ça fonctionne? Comment il faut faire?
Donc, nous, ce qu'on conseille souvent aux personnes, c'est de venir nous rencontrer lors d'une distribution. Donc, à partir de maintenant, on est tous les mercredis devant la halle
Saint-Jean
de 12h30 à 13h30. Donc, il faut vraiment n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Ça vous permet aussi de rencontrer les producteurs et de voir les produits qui sont proposés. Et puis après, donc, vous pouvez soit adhérer sur place ou bien aller sur le site internet de la MAP si vous voulez d'autres renseignements également. Voilà, où vous trouverez le bulletin d'adhésion et puis toutes les informations sur les producteurs.
Sinon, il y a une troisième solution. Vous pouvez appeler directement la présidente de la MAP sur son portable, Caroline Gaillard au 06.
Non, on va pas lui faire ça, non, mais.
On donne pas. D'accord.
Mais voilà, effectivement, on peut saluer Caroline qui est quand même la présidente de la MAP. C'est pour ça que je disais qu'elle pouvait être un petit peu, qu'elle n'était pas là aujourd'hui et qu'on en profitait justement pour vous recevoir, pour aussi éviter le conflit d'intérêts, on va dire.
Après, ce qui est vrai, c'est que les Amapiens, justement, on a certaines idées un peu communes, donc. De temps en temps, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on essaye de faire un pique-nique sur place. Là, c'est prévenu un peu à l'avance que tout le monde vienne, essaye de prendre un peu de temps et on se retrouve comme ça. C'est vrai que ça permet aux personnes de discuter, de savoir pourquoi on est là, qu'on n'est pas là que pour récupérer normalement son panier de légumes ou son morceau de pain, mais que on est là aussi un peu pour échanger, pour partager des idées. Et c'est ça aussi qui est sympa avec la MAP. Ouais.
Et la MAP paye l'apéro.
Mmh. En plus. Voilà.
C'est ça. Oui, mais même, c'est presque chaque marché mensuel hein, que chacun amène à manger et reste un moment.
Alors, comment ça fonctionne? C'est chaque, je fais le candidat aujourd'hui, hein, mais quand on est adhérent, ça veut dire qu'on paye une cotisation mensuelle à la MAP et on a notre panier qui nous est donné, ou est-ce qu'on paye directement au producteur?
Donc il y a une adhésion pour
le fonctionnement de la structure.
Pour l'association, voilà, donc c'est une adhésion annuelle de 15 € ou 10 € pour les demandeurs d'emploi ou les étudiants. Et après, au niveau des commandes, donc les commandes se font sur un contrat qui rassemble tous les produits, mais les règlements se font directement auprès du producteur. Donc voilà, la MAP ne...
On n'a pas du tout de flux financier par rapport
au
producteur.
On peut ne pas commander pendant 1, 2, 3 mois si on n'a pas besoin de produits. Et quand on a besoin, on est toujours dans le réseau et on peut revenir au marché mensuel.
Mais il faut repartir dans un contrat dans ce cas-là.
Non.
Ce sont des contrats par trimestre. Donc,
c'est par trimestre. Oui, pardon.
Chaque trimestre, il y a un nouveau contrat. L'idée, c'est bien sûr de ne pas obliger les gens à acheter une caissette de viande de 5 kilos tous les mois. Voilà. Donc chacun fait un petit peu en fonction de ce qu'il consomme.
D'accord, très bien. Donc ce site de la MAP, on retrouve toute l'offre justement qui est présentée ou...
Sur le site de la MAP, vous avez donc la liste des producteurs, donc avec un descriptif de leur ferme, et puis la liste des produits et les actualités de l'association.
Alors tout à l'heure, on évoquait des actions, donc vous parliez de pique-nique, de discussion, mais aussi d'opérations solidarité. Comment ça s'envisage justement dans un fonctionnement collectif, ces actions? Comment vous les concevez? Comment vous les programmez tout au long de l'année?
Donc c'est ça qui est vraiment important dans l'association. Hein. Comme le disait Eric, ce n'est pas juste un échange entre un produit d'un côté et de l'argent de l'autre. Et donc c'est cet engagement-là que l'on demande aux Amapiens. Ça passe par tout bêtement une aide pour la gestion de l'association, pour transmettre des informations. Et puis, plus particulièrement, donc, par les SOS Amapiens. Donc, comme on le disait, quand un producteur a un besoin de main-d'œuvre pour des missions délicates ou personnellement, par exemple, j'ai dû changer la bâche d'une de mes serres ce printemps. Et donc, nous avons fait appel aux Amapiens parce qu'il nous fallait, plus de bras. Donc, tout simplement, des appels sont lancés par mail aux différents adhérents. Et puis, il y a aussi, la MAP tient également des stands sur différents événements. Donc, on demande également aux Amapiens de participer à la tenue des stands.
Vous avez participé, là, les Amapiens autour de la table?
Nous, on est des feignants, nous.
À ces activités?
C'est pas les plus dynamiques.
C'est pas les plus dynamiques, non.
Et là, les Amapiens, c'est surtout des Mandois ou il y a des personnes de l'extérieur, un peu?
Il y a un petit peu de... on va dire que l'essentiel des adhérents habite à 20 km autour de Mende. Donc il y a quand même cette nécessité de venir récupérer toutes les semaines ou tous les mois donc ces produits à Mende. Voilà. Mais on a des demandes parfois de personnes de Saint-Chély-d'Apché, de Marvejols, qui aimeraient avoir le même système chez eux.
Il n'y a pas une AMAP Marvejols? Non, je croyais.
Non,
il y a les jardins de Cocagne, mais il n'y a pas d'AMAP. Ouais. C'est que oui, vous ne pouvez pas être sur tout le territoire, c'est trop compliqué. Rien que pour le fait d'avoir un point de collecte, c'est vraiment difficile.
Et alors, si on loupe, enfin, si on ne peut pas être là le mercredi midi, comment
ça
se passe?
Comme Eric, on appelle Ludo, est-ce que tu peux me prendre mon panier et on se débrouille. C'est ça, Eric?
C'est
Valérie, voilà, qui m'appelle plutôt. Mais...
Ou parfois, les producteurs appellent Ludo aussi parce qu'il a oublié son panier.
Ça arrive aussi.
Non, il n'y a pas de souci. Voilà, on est très compréhensif aussi. Hein, ça peut arriver. Il faut nous prévenir et puis on arrive toujours à s'arranger entre amapiens.
Très bien. Bon, bah c'est, enfin voilà, on a découvert un petit peu plus ce fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire
Non, après c'est, pour, on s'en rend tout petit peu de là. Mais il y a pas que la map pour en déboucher pour le maraîchage.
Alors, pour ma part, je vends également donc à la boutique de producteurs qui se situe en centre-ville de Mende, la Maison des Paysans de Lozère.
Ouais, une belle aussi une belle réussite avec là, le système et de fonctionnement, c'est à tour de rôle que vous venez assurer la gestion de la boutique, c'est ça?
Donc c'est ça en fait, chaque producteur doit tenir des permanences, donc on tourne chacun notre tour, oui, pour tenir la boutique.
Et c'est ouvert du mardi au samedi?
Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Donc, occasion, effectivement.
Et vous êtes pareil des producteurs qui font les deux. Il y a certains producteurs qui font la map et.
Il y a effectivement trois autres producteurs qui sont également au sein de la map.
Oui, donc c'est à la limite ça peut être une solution pour des gens qui voudraient pas peut-être s'engager sur des durées peut-être longues, mais qui vont plutôt avoir envie d'aller avoir de temps en temps aller chercher ces produits. Aussi de qualité en lien avec les producteurs.
Plus que l'engagement, en fait, cette boutique, ça sert à trouver un produit du jour au lendemain. Il me manque quelque chose, je peux aller chercher plus que l'engagement parce qu'en fait, il y a cet engagement à l'année qui est dérisoire de 15€. Et
non, mais comme c'est pas l'engagement financier de 15€ que je me remettais en cause. C'était l'engagement plutôt à commander de façon régulière et avoir un panier de façon régulière.
Voilà, ça, l'important ça peut... pour nous à la map et la différence entre, par exemple, ces deux systèmes de vente, c'est qu'à la map, on attend justement autre chose. Mmh. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de manger de la viande en permanence, mais on attend une certaine régularité, un engagement supérieur.
Il y en a un joli sac jaune quand on s'inscrit à la map.
Et vous avez un cabas offert pour toute nouvelle adhésion.
C'est ça.
Voilà, c'est effectivement, ça fait envie, en tous les cas, pas forcément pour le cabas, mais...
Ah oui, si, quand même,
il est beau.
Ah, il est beau, hein.
Allez, bon, ben voilà, donc rendez-vous donc les mercredis à 12h30, c'est ça, devant la Halle Saint-Jean, à partir de maintenant, donc pendant tout l'été, enfin voilà...
Jusqu'en décembre.
Jusqu'en décembre. Bon ben voilà, le rendez-vous est pris. Alors peut-être le prochain grand marché ou c'est dans...
C'est le 21... non, c'est le...
Mercredi prochain.
C'est mercredi prochain. Non, c'est pas le 21 juin ? Je sais pas. J'ai regardé aujourd'hui, je crois que c'est le 21 juin.
C'est le 14 juin. Alors.
C'est le 14.
C'est le 14 juin.
Le 14 juin.
Bon, voilà. Bon, donc allez voir le site de la map où vous retrouverez peut-être le calendrier. J'imagine.
Toutes les dates des distributions.
Voilà. Bon, donc on poursuit maintenant avec la chronique de Ludo et on reparlera un tout petit peu de la map avant de se quitter. Alors Ludo, tu emmènes du Roquefort en balade.
Voilà, alors j'ai écrit ma chronique, bien sûr, par rapport à l'invité du jour. On parle de bons produits, on parle d'environnement. Donc du coup, j'ai sorti une petite chronique sur un blog de voyage qui s'appelle A Ticket to Ride. Donc un blog de voyage qui a été conçu par deux amis à nous.
C'est quand même un peu du copinage.
c'est du copinage, mais c'est un excellent blog de voyage, sinon je n'en aurais pas parlé.
Tout à fait.
Parce que j'ai certains amis qui font des choses, mais j'en parle pas forcément non plus. Hein. Donc deux amis journalistes qui sont d'ailleurs passés durant leur carrière professionnelle par la Lozère, Mathieu Laguaner et Elodie Callas, qui ont effectué un tour du monde. Donc jusqu'ici, rien d'extravagant, si ce n'est que lors de leur périple, ils ont fait goûter du Roquefort. Alors un partenariat a été établi avec la société aveyronnaise qui a pu leur envoyer du fromage aux quatre coins du monde, donc à Pékin, Moscou, ils ont dû brader l'embargo, en Nouvelle-Calédonie, Singapour, Vietnam, Espagne, Finlande, Chili, Afrique du Sud. Pas dans cet ordre-là du tout, non. On découvre sur leur blog, en fait, dans des vidéos, les réactions des autochtones qui goûtent ce fromage, on peut le dire, au goût quand même un peu particulier. On va écouter des passages en Chine et en Nouvelle-Calédonie, justement.
Bonjour à tous, on est à Pékin et il pleut. Mais c'est pas grave, on va quand même faire goûter du Roquefort aux Chinois. On a galéré à trouver du fromage, mais maintenant on a le morceau dans le sac et on part direction Wangfujing. Donc c'est un petit marché de rue, retrouver Patrick, un Pékinois qui étudie le français et qui va nous permettre un petit peu de comprendre ce que pensent les autres Chinois du Roquefort. Allez, c'est parti. Et on va peut-être goûter quelques insectes au passage.
Au début, il a trouvé le goût un peu bizarre, mais après, quand il a retrouvé un autre goût, qui est pas mal. Ben, le goût le rappelle à un autre produit chinois. Il a dit que c'est moche.
Ça sent très mauvais. On dirait un peu du tofu moisi.
Donc bonsoir, je suis avec Lemon, une amie chinoise qui va déguster le roquefort pour la première fois et qui est un petit peu inquiète.
C'est clair. The smell is so nice.
It's okay.
Ah, it's
okay.
You like it?
Don't have you think like me. But this is okay.
Bonjour, on est en Nouvelle-Calédonie, plus précisément sur une pirogue à l'approche de l'île des Pins. Et cette fois, c'est aux Kouniers, les habitants de l'île, qu'on va faire goûter notre roquefort. En effet, on a la chance d'être invité ce soir à un repas traditionnel dans une famille. Allez, c'est par là.
Merci. Il est bon. Un peu salé.
Il est bon.
C'est bon. Ah ouais, c'est lui. C'est excellent, ouais.
Voilà. Mais comme je vous dis, il manque le pinard.
Merci bien.
C'est normal la couleur?
Oui, c'est normal. Vous ne connaissez pas? Vous avez jamais goûté?
Si, j'ai vu à la télé, mais...
Vous n'avez jamais goûté?
Non, jamais. Très fort, pour moi en tout cas. Vous mangez tout le temps ça, vous?
Moi, oui.
C'est du roquefort.
Oui, j'aime bien. Un bon, merci.
On a fait le tour du monde, là.
On a fait deux pays. On a fait la Nouvelle-Calédonie et Pékin. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. C'est extrêmement drôle. Car déjà, les deux protagonistes de ce tour du monde le sont. Et les réactions sont assez étonnantes. On voit, par exemple, en Chine, certains marchands chinois qui ont accepté de goûter le fromage si eux goûtaient des scorpions à la place. Voilà. Ils mangent des scorpions grillés. Et donc, ils ont dit, d'accord, nous, on veut bien goûter votre fromage bizarre, mais en échange, vous allez goûter nos plats traditionnels. À Moscou, ils ont fait goûter le fromage aux sosies de Staline et de Lénine, qui se baladent sur la place rouge pour les touristes. Donc, c'est assez cocasse aussi. À Singapour, c'était pendant les festivités du 50e anniversaire de l'indépendance. Au Vietnam, des cuistots l'ont cuisiné au nem. Au marché central de la Vega, au Chili, on trouve de tout, sauf du roquefort. Donc, eux sont venus offrir du roquefort aux gens qui venaient faire leur marché. Et en Finlande, enfin, c'est le Père Noël lui-même qui a goûté le fromage. Et il paraît que d'ailleurs, le fromage aveyronnais s'est retrouvé au pied du sapin de nombreux enfants finlandais. Alors, passé l'odeur, généralement, les personnes aiment bien le goût du fromage. Ils le trouvent tous un peu salé. Voilà, c'était la réaction. J'ai regardé attentivement toutes les vidéos. Les seuls points négatifs qui sortent, tout le monde dit « Ouh, c'est un peu salé quand même » et ça pue. C'est le fromage, c'est du roquefort, on s'en doute. Donc cette information a été reprise dernièrement par Le Figaro, par France O, vu qu'ils sont passés en Nouvelle-Calédonie. De nombreux médias se sont emparés de l'histoire, ça fait un peu le buzz. Et du coup, ce blog ne s'arrête pas là, car Mathieu et Elodie, qui travaillent par ailleurs sur d'autres projets pour vivre, continuent de proposer des sorties inédites sur leur blog, mais cette fois-ci en France. Ou
oui, ils sont allés à Saint-Étienne il n'y a pas longtemps.
Pour preuve que c'est inédit, personne ne va à Saint-Étienne sauf eux, où ils ont fait justement les idées reçues comme quoi Saint-Étienne est une belle ville.
Si, il y en a qui y vont, mais ils s'en vendent pas. Quoi.
Voilà, il y en a qui s'en vendent pas.
Donc voilà. J'y étais ce week-end, hein, je revendique.
Oui, mais toi, tu as un lien particulier avec cette ville.
Hein. Oui, j'y suis né, c'est vrai.
C'est ça. Donc voilà, vous pouvez retrouver toute cette histoire, tout ce tour du monde en photo, en vidéo sur www.a-ticket-tout-ride.com.
Bon, et ça sera sur le Facebook de l'émission, évidemment.
C'est ça.
On pourra retrouver toutes les infos et retrouver les vidéos. Donc, on verra ce que tu nous as transformé en son, en vidéo. Bien, ben, tout de suite après, c'est hashtag. Mmh. Alors, les mots dièses de la semaine, c'est donc voilà les hashtags de la semaine. Alors, en France, il a été finalement assez peu question, enfin ces derniers jours, le hashtag qui a vraiment pris les devants, c'est bah, c'est autour de Londres, hein, qui a vraiment explosé tout le, enfin c'est pas un bon jeu de mots d'ailleurs, mais enfin voilà, qui a vraiment été présent.
C'est très, pas très beau ce que tu
non,
fais.
Non, c'est pas très beau.
Donc, mais tu l'as pas fait exprès.
Non, du tout. Puis c'était pas écrit surtout. Donc voilà. Donc le hashtag London qui a vraiment inondé la toile ces dernières heures. Avec finalement assez peu les hashtags sur la campagne électorale qui sont finalement assez peu présents au niveau national, de même que Roland Garros par exemple qui a commencé déjà depuis une semaine et qui pour autant ne squatte pas vraiment les top tendances de la semaine. Alors évidemment il y a eu
J'ai vu beaucoup le retour de notre astronaute.
Il y a eu aussi effectivement le retour de Thomas Pesquet. Il y a des
qui avait été très actif lui sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter et sur Facebook. Il avait mis beaucoup de photos, il avait fait beaucoup d'images et tout. Il a essayé d'être vraiment présent au quotidien. Je crois que c'était une dizaine de tweets par jour ou quelque chose comme ça. C'est
impressionnant. Oui, avec de très 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 belles photos. Je pense qu'il y aura très certainement pour Noël prochain un très bel album de photos à découvrir parce que c'est vraiment. Enfin, vraiment, et c'était une façon aussi pour l'agence spatiale européenne de aussi reparler de façon un peu qualitative de cette expérience d'aller dans l'espace et d'habiter l'espace. Donc, au-delà des gains scientifiques qui peuvent avoir lieu, il y a effectivement un gain en termes de communication sur lequel effectivement Thomas Pesquet a fortement investi. Donc ça a été effectivement assez tout au long de son séjour et puis ça s'est arrêté il y a quelques jours. Et puis il y a eu quelques pics, effectivement tu parlais de certains épisodes sportifs ce week-end et de fait effectivement ça a généré quelques pics de réactions dans les différents camps, à la fois sur le foot, sur le rugby, donc un peu pour l'actu nationale. Au niveau lausérien cette fois-ci, un petit peu d'élections, mais alors très peu, et essentiellement du patrimoine, même beaucoup de patrimoine.
Du trèfle, non?
Du tourisme, très peu de trèfle aussi, donc voilà.
Trèfle, j'ai vu... surtout sur Facebook, peut-être pas trop sur Twitter. Ouais.
Moi j'ai vu le hashtag panier Séverine. Vous l'avez pas vu passer celui-là? Quoi? Des radis, hashtag panier Séverine.
Alors est-ce que la map est sur les réseaux sociaux?
La map sur a Facebook. Un compte Facebook.
Un compte.
Qu'on va partager sur la...
Et on partagera évidemment sur le Facebook de Los Actuali. Bon voilà, donc c'était les hashtags de la semaine. On se retrouve juste après une coupure musicale pour la revue de presse.
Fiction in every addiction. Oh, oh, oh. Fantasies taking over. Always.
Allez, dernière partie de notre émission Los Actuali sur 48FM, toujours avec Séverine de la MAP du Gévaudan. Alors, il paraît que pendant la pause, on a eu une réclamation, hein, nous disant il faut parler des blettes.
Bon, ok, je vais faire...
Je me suis retenu, hein, durant toute l'émission. Je te salue Valérie, je te remercie de mettre ce sujet sur la table.
Valérie est courageuse, visiblement. Bon, bah, c'est promis, nous allons faire des efforts et vous mettre moins de blettes dans les paniers.
C'est bon, les blettes.
C'est très, très bon, les blettes.
Ouais, mais c'est qu'on a quelques recettes, mais c'est pas non plus... On n'a pas énormément de recettes sur les blettes. Donc, sinon, faut nous trouver des nouvelles recettes pour les blettes.
Eh ben, ça marche.
Un défi recette.
Mercredi, dans votre panier, il y aura une fiche recette avec les blettes.
Fiche recette sur les blettes, ouais, inédite.
La fiche recette de Ludo.
C'est ça.
Bien, allez, c'est la revue de presse, donc c'est moi qui commence aujourd'hui. On le disait dans la rubrique hashtag, il y a un petit peu de politique quand même, un petit peu en ce moment. Mais finalement, pas un engouement phénoménal. Alors, pour comprendre un petit peu les élections législatives, comment ça marche, les décodeurs du Monde proposent, comme d'habitude, des supports assez sympas. Et cette fois-ci, c'est une explication en BD qui vous est proposé par Agathe Daillot. Et donc, voilà, en BD, vous avez les explications sur les législatives. Alors, est-ce que vous savez combien il y a de députés en France ?
577.
Ouais, bonne réponse.
Un point. J'étais pas sûr qu'on ait le droit de parler politique. Comme
non, mais nous ne parlons pas politique. Nous ne parlons pas politique. Je parle uniquement de la méthode d'élection.
C'est un blind test, Eric, on a le droit.
Voilà, donc 577 députés, 577 circonscriptions. À noter qu'un député n'est pas un élu local, mais il représente la nation et donc le peuple. Voilà, alors, les élections législatives ont lieu à scrutin majoritaire à deux tours. Donc le 11 juin, ça sera le premier tour, donc ce dimanche, avec une spéciale sur 48FM à partir...
De 19h.
De 19h, voilà.
Ça vous aurez déjà les résultats à 19h.
Et on les donnera une heure avant.
Non.
À 18h.
On n'aura pas les résultats et même à
19h, 20h... Les bureaux ferment à 19h.
Hein. Non, mais à 19h, on va parler un peu de tout ce qui tourne autour de cette élection législative, les principaux candidats, les anciennes élections en Lozère, les enjeux, etc., etc. Jusqu'à 20h, où on n'aura certainement pas, ça sera un peu tôt, les résultats, mais... On les donnera dès qu'ils tomberont et après on entendra en direct les principaux candidats qui passeront au second tour, voir s'il y a des éliminations surprises de ces candidats.
Voilà, donc ça sera donc le 11 juin et puis le 18 juin, la soirée électorale aussi de ce deuxième tour. Alors, contrairement au présidentiel où il y a eu 15 jours d'écart entre les deux tours, là il n'y a qu'une seule semaine. Sauf pour les Français de l'étranger qui, vous l'avez entendu peut-être dans l'actualité nationale ce matin, ont voté durant le week-end avec un certain nombre de résultats qui ont déjà été communiqués, sur lesquels nous ne reviendrons pas pour l'équilibre des temps de parole entre toutes
Pourquoi
les forces.
Pourquoi on ne peut pas communiquer sur ce qui est déjà annoncé ?
Ben, si, mais on va pas faire de commentaires autour de ce qui...
Si tu cites les résultats d'un parti, il faut que tu cites tous les autres partis qui
tous
sont
candidats. Tous les résultats de tout le monde.
Notamment pour les Français de l'étranger, ces élections ont eu lieu, effectivement.
Justement, notre astronaute a déjà voté. Ouais.
De l'espace.
Ouais, notre astronaute de
l'espace. Ouais. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se maintenir... Au second tour, il faut les deux premiers sont obligatoirement retenus pour le second tour, sauf s'il y en a un qui obtient plus de 50% des voix, bon, qui serait élu dès le premier tour. Bon, voilà, ça c'est
des votants ou des inscrits.
Des votants représentant plus de, je sais plus, des inscrits, mais c'est ça. Il y a un critère comme ça. Et pour être au second tour,
des votants sans les bulletins blancs et.
Oui, non, mais c'est compliqué.
C'est très compliqué. C'est des pourcentages.
C'est des mathématiciens.
C'est les exprimés et sur les inscrits. Donc là, en l'occurrence, là, c'est les inscrits qui vont compter pour le troisième. S'il doit y avoir un troisième ou un quatrième, et là, à ce moment-là, il faut plus de 12,5% des votants. Non, des inscrits. 12,5% des inscrits. Il faut voter.
Enfin, il est bon, hein. Tu fais quoi dimanche soir, là?
Si vous n'avez pas tout compris, il y a Ludo qui réexplique tout dimanche.
Voilà, exactement. Mais surtout, vous pouvez aller retrouver cette petite BD assez sympa. Donc, sur le site des décodeurs du Monde, on vous mettra aussi le lien. Voilà. Eric, c'est à toi.
Oui, maintenant, je voulais revenir juste sur un article là, de National Geographic sur la découverte des États-Unis, parce que c'est vrai que c'est toujours un sujet qui revient de temps en temps. Donc, qui aurait été découvert, donc les Amériques auraient été découvertes finalement par les Vikings et par Leif Erikson, fils du chef viking Éric le Rouge, donc qui aurait établi une colonie sur les côtes de l'actuel Canada. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai réussi à répertorier quelques théories sur qui a bien pu découvrir les Amériques. Donc, déjà, les premiers, ça remonte finalement aux Européens à l'âge de pierre. Donc, c'est une théorie qui est basée sur la découverte d'outils. Il y a aussi les Égyptiens. Donc, le contact entre la civilisation égyptienne et américaine, ça se retrouverait plus sur du tabac qui aurait été retrouvé dans des tombeaux pharaoniques. Il y a aussi les Japonais. Eux, ils se basent sur des similitudes entre une ancienne civilisation d'Équateur, Valdivia, et les Jamon au Japon. Il y aurait aussi, ou sinon, les Polynésiens. On sait qu'ils sont allés jusqu'aux îles de Pâques bien avant Christophe Colomb. Donc, pourquoi ils n'auraient pas été finalement jusqu'aux Amériques? Il y a les Africains. Eux, ils se prétendent que ce sont eux les Olmecs. Les Olmecs, donc, en Amérique du Sud, ils prétendent qu'ils viennent des Africains. Alors après, il y a les Chinois. Parce que les Chinois, ils prétendent que c'est eux qui sont d'abord allés en Afrique et après, donc, en Amérique du Sud. Donc, ils seraient précurseurs par rapport aux Africains. Il y a aussi les Romains. Alors, les Romains, non, c'est pas un remake de la grande traversée d'Astérix. Mais on a découvert quelques pièces de monnaie romaine, donc après, elles ont pu être amenées un peu après, quand même. Il y a les Grecs. Il y a les Grecs, et forcément, les Irlandais. Hein. Et les Irlandais, ils sont toujours... les Arabes. Alors, les Arabes, ils n'ont rien demandé, mais c'est les Chinois qui les ont dénoncés. Il y a les Basques, les Bretons, les Normands, et les Turcs. Enfin, les Turcs, ouais. Les Turcs, je me base sur un livre... la découverte de l'Amérique par les Turcs. Donc ça, c'est juste un livre, hein, par contre. Ça, je le rajoute à la liste, parce qu'il n'y a aucune théorie encore là-dessus. Donc, à ce stade-là, donc, il serait presque plus facile de faire la liste de ceux qui n'ont pas découvert l'Amérique. Mais ce qui est certain, donc, c'est que Christophe Colomb ne fut pas le premier, mais si son voyage a certainement été le plus... Mais son voyage, par contre, a certainement été le plus nocif pour les indigènes.
C'est sûr. Et les extraterrestres, il doit bien y avoir des gens qui doivent dire que c'est les extraterrestres.
Ouais. Hein. Les reptiliens sont arrivés un peu
les après. Les reptiliens, ouais. Après. Ouais. Après les Turcs.
C'est ça. Mmh. Juste après. Ça
bien, c'est le moment de la surprise maintenant. Dans cette avant-dernière émission, la dernière sera sans doute aussi une surprise, puisque normalement nous ne serons pas en studio. On va y travailler un petit peu encore, mais voilà. Donc dans cette avant-dernière émission, c'est le moment où Ludo, ça arrive de temps en temps, vient nous faire rire. C'est parti.
La première fois qu'il vient.
Voilà, c'est la première fois, mais ce n'est pas pour rien. J'aimerais remercier Eric de m'avoir invité. C'est lui qui m'a invité dernièrement sur les réseaux sociaux, savoir si je voulais venir faire une chronique. Car il faut savoir qu'après ma dernière chronique, qui a lieu il y a environ 2 ans dans l'ancienne version de cette émission, on a rechigné à m'inviter. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être lorsque j'avais évoqué dans la dernière chronique la folle soirée de Guillaume au Macumba, pour les gens qui s'en rappellent. Alors il faut dire que Guillaume sait que je rends toujours hommage aux personnes qui m'invitent. C'est peut-être pour cela qu'il n'a pas souhaité me convier à cette émission, à moins que l'invitation se soit perdue, car il est vrai que l'Association des maires de France avec l'État et la Poste ont décidé de restreindre les heures d'ouverture des bureaux de poste en période estivale, quand avec la venue de touristes, la population lausérienne augmente, ce qui est bien entendu logique. Et comme dirait notre ami de Force ouvrière Michel Guiral, qui a soulevé ce problème...
Eh ben, pour permettre à des agents qui travaillent quand même toute l'année de prendre leur congé, ben, il faut revenir un petit peu à ce qui se faisait ailleurs, à une autre époque, de recruter tout simplement du personnel remplaçant.
Eh ben ouais, c'est pas compliqué quand même, ça paraît même logique. Mais les embauches ne sont pas prévues à la Poste et encore moins en Lozère. Alors là, je vois Eric qui dit « c'est bon, il m'a oublié ». Merci donc Eric de m'avoir proposé de faire cette chronique. Eric, qui est donc la recrue phare de cette émission. Adeline, ayant vite compris, a décidé de partir d'abord au Québec, puis ensuite encore plus loin, c'est-à-dire à Clermont-Ferrand, pour fuir au plus vite cette folie ambiante, au contraire d'Eric, qui, lui, a tout de suite été accepté et aimé dans cette émission.
Peut-être que si je vous montre les images, vous allez, à ceux qui sont avec moi, vous allez les reconnaître. Et en fait,
on est obligé de s'en aller, alors on vous souhaite une très, très bonne quinzaine et à bientôt.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué le petit rire sardonique de Guillaume au moment de partir. Alors, ce que vous n'avez pas vu, c'est la petite tape amicale qu'a donné Guillaume sur la nuque d'Eric, tape que l'on appelle plus communément une calbotte. Alors, c'est bien parce qu'Eric me demande depuis un moment un retour sur ses chroniques. Donc, du coup, depuis ce matin, j'ai réécouté attentivement tous ses passages radio. Alors, j'avoue que ça a été un peu dur de faire de l'humour dessus, car toutes ses chroniques sont assez sérieuses. Pour exemple,
l'article est tiré d'une étude qui a été faite au Japon, donc dans une université de Keio. Keio, donc j'ai regardé, c'est quand même l'université privée, donc la plus cotée au Japon, donc c'est pas une petite université, qui ont fait une étude sur le mercato à Katmandou. Alors là, c'est des Africains qui se retrouvent à jouer au Népal. À Népal au football pour essayer de s'en sortir justement, qui arrive là-bas un peu, on ne sait pas trop comment ils y sont arrivés, ils découvrent la neige en même temps que les coutumes locales et la nourriture locale, donc voilà, c'est un peu particulier.
C'est un peu particulier, et il faut dire qu'Eric est un gros bosseur, comme en atteste la philosophie qu'il essaye de faire passer dans cette émission.
Donc ça montre que finalement, travailler plus pour gagner plus, je ne sais pas. En tous les cas, travailler plus pour travailler mieux, a priori, c'est sûr que non.
Eric, qui, mis à part quelques informations bucoliques sur le mercato au Népal, s'intéresse souvent à l'environnement, avec des informations toujours regroupées et vérifiées.
Cela va des poubelles de San Francisco, donc ils en ont trois.
Oui, il faut savoir qu'il y a seulement trois poubelles à San Francisco, ville qui compte 805 235 habitants dans ses limites administratives et plus de 7 millions de personnes qui vivent dans l'aire métropolitaine, ce qui en fait la quatrième métropole des États-Unis. Oui, je ne vois pas pourquoi Guillaume serait le seul à faire des copier-coller de Wikipédia pour ses chroniques. Donc, il faut savoir que les poubelles à San Francisco sont grandes, très très grandes. Ayant fini ma chronique il y a seulement une dizaine de minutes, je n'ai pas trouvé de lien entre ce qui vient de se dire et la carrière de chanteur baroque qu'Eric a essayé de lancer grâce à cette émission. Certainement que les musiques de qualité passées par Guillaume et par Guillaume lui ont donné envie de pousser la chansonnette, comme lors de l'émission 4 de Los Actuali.
Combien de fois faut-il lever les yeux pour apercevoir le ciel ? Combien d'oreilles faut-il à un seul homme avant qu'il entende les autres pleurer ? Combien de morts avant qu'ils ne comprennent que le nombre est déjà trop grand ? La réponse, mon ami, est soufflée par le vent.
Mais bien que la carrière de chanteur d'Eric n'ait pas décollé, je ne sais pas pourquoi, il n'oublie pas pour autant les personnes qui l'ont accompagné durant cette émission, qui l'ont poussé à se surpasser, à croire en ses rêves. Pour preuve, ce passage d'interview donné au mensuel d'Automoto, où il parle de sa rencontre avec Caroline.
Donc je dois bien avouer que, justement, ce casting de rêve m'avait un peu refroidi au départ. J'ai donc commencé à lire certains papiers. Bon, même si on ne peut pas vraiment parler de papier, j'ai quand même réussi à arriver jusqu'au bout des capacités intellectuelles. Donc elle est devenue une véritable icône voilà, nous, on fait du vrai journalisme non partisan, on n'est pas tenu par des grands groupes.
Oui, salut Caroline, tu as bien fait de ne pas venir dans cette émission et de me laisser ta place. Bon, il est peut-être temps que je termine cette chronique qui part en beurre de cacahuète, private joke, Eric, en te laissant le mot de la fin, comme dirait Guillaume.
Et on va vite donner la parole à Eric qui doit s'en aller.
C'est ça, donc je vais faire vite, comme tu viens de le dire. Merci, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Bon ben voilà, c'était on y a tous plus ou moins eu droit hein, depuis le début. Donc on vous souhaite à tous une très très bonne quinzaine. Merci Ludo de nous avoir fait.
Je suis libre pour la dernière émission si vous voulez. Si quelqu'un veut m'inviter de vous trois.
Oui, on verra ça, mais on sera sans doute un petit peu loin de ce studio. On remercie Séverine d'être venue nous présenter la map. Donc on rappelle les rendez-vous, c'est le mercredi à 12h30 à la Halle Saint-Jean pour si on veut s'engager dans ce processus. Voilà.
Et même quand il pleut, ils y sont.
Et toutes les infos sur le site.
Sur mapmende.org.
Voilà, avec deux P.
mapemende.org.
Voilà, le site est donné. Donc vous pouvez bien sûr réécouter cette émission le jeudi à 19h, le mardi à 12h30. Voilà, n'hésitez pas à la commenter, à réagir. Et puis rendez-vous donc dans 15 jours pour la dernière émission de la saison. À bientôt, bonne quinzaine à tous.
À bientôt.
Ciao.
Merci, au revoir.
L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.